11 heures passées de 1 minute, chers auditeurs, bienvenue dans la Méridienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de cinéma, et oui, avec une voix bien connue de nos auditeurs, puisque mon invité aujourd'hui n'est autre que Solène Berger. Bonjour Solène.
Bonjour Mélissa.
Donc Solène, on a l'habitude de t'entendre dans l'émission Plan Séquence, donc notre émission hebdomadaire du jeudi dédiée au cinéma, depuis quelques années déjà.
Oui, depuis 10 ans.
Voilà, 10 ans de cinéma à la radio. Et aujourd'hui, si j'ai le plaisir de t'avoir dans la Méridienne, eh bien c'est pour parler d'un mémoire voilà, que tu as soutenu très récemment, puisque tu viens, on peut l'annoncer à nos auditeurs, d'obtenir le titre de directeur d'exploitation cinématographique par la FEMI. C'est donc le sujet de ton mémoire. Eh bien, je prends mon souffle pour l'annoncer. C'est de l'utilité de la médiation dans les circuits de cinéma itinérants. Alors, avant de se pencher, pardon, j'en tousse, sur ce mémoire voilà, donc, qui est consacré à la médiation dans les circuits de cinéma itinérants, peut-être que Radio Étudiante Oblige, tu veux en dire un peu plus à nos auditeurs sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à refaire des études, finalement?
Ah oui, alors moi, ça fait presque 8 ans que je travaille à Cineof, qui est un réseau de salles et qui a un circuit de cinéma itinérant. Avant ça, j'avais fait un service civique, un volontariat en service civique sur un circuit de cinéma itinérant. Et avant ça, j'avais fait un master dans l'éducation à l'image. Donc vu que ça fait 8 ans voilà, que je travaille là où je suis, c'est mon premier emploi, mon premier CDI, je me suis dit, je voulais aussi évoluer professionnellement. À savoir que j'ai été embauchée en tant que projectionniste et chargée d'animation. Donc je coordonne voilà, toutes les animations du réseau. J'anime aussi des ateliers, et en plus de métier de projectionniste. Et du coup, je voulais voilà, un peu évoluer et acquérir de nouvelles compétences. Et cette formation à la FEMIS, voilà, qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, pouvait... voilà, m'octroyer ces nouvelles compétences. Donc j'ai postulé et j'ai eu le plaisir d'être prise à cette formation, et voilà, je l'ai fini il y a 2 semaines maintenant.
Alors c'est quoi donc la FEMIS?
La FEMIS, ouais. Certains disent le FEMIS, mais non, c'est vraiment la FEMIS. C'est une des deux grandes écoles de cinéma en France. Hein. Avant, c'était l'IDEC, la FEMIS, dans les années 90. C'est plutôt une école à sa création, en tout cas pour former les réalisateurs, tous les métiers artistiques du cinéma. Il y a des grands scénaristes, des réalisateurs, réalisatrices... producteurs aussi et monteurs qui sont sortis de cette école-là. C'est une école publique, hein, la FEMIS, sur concours à Bac plus 2. Et donc ça, c'est pour la partie formation initiale, hein, après le bac. Et puis depuis cette formation que j'ai faite, ouais, elle a un peu plus de 10 ans, donc il y a des formations continues, donc dans le cadre des formations professionnelles qu'ils ont montées. Alors là, c'est sur l'exploitation cinéma, mais ils ont aussi des formations continues sur la production, l'écriture, et voilà, à peu près. Et voilà, pour vous dire un peu les réalisateurs qui sont sortis, qui sont peut-être connus des auditeurs, en tout cas nous on en parle dans Plan Séquence. Je sais pas, Céline Sciamma, elle est sortie de la FEMIS, Arnaud Desplechin, elle est sortie de la FEMIS, Noé Milowski, il y en a évidemment plein d'autres, mais c'est une des écoles qui a, voilà, c'est un peu du prestige, quoi. C'est un peu la classe, la FEMIS. Et Louis-Lumière, il y a deux grandes écoles. Il y a la FEMIS et l'école Louis-Lumière, qui, cette école-là, forme plutôt les techniciens, les chefs opérateurs, l'ingénieur du son. Et c'est une des plus grandes écoles de cinéma en France publique, en tout cas.
Alors, tu as mentionné aussi que tu étais aussi projectionniste. Donc là, c'est un autre diplôme, c'est encore une autre formation.
Projectionniste, alors le diplôme de projectionniste n'existe plus depuis 2-3 ans maintenant. C'était un CAP, hein, CAP opérateur projectionniste. Ce mot-là a même été supprimé de la convention collective du cinéma, de l'exploitation cinématographique. Maintenant, il y a d'autres termes. Voilà, pour quelqu'un qui projette, on a des techniciens cinéma, un agent d'accueil aussi peut pas projeter, mais en tout cas lancer une séance. Ben voilà, il y a plein de nouveaux termes. Le métier a changé depuis 10 ans avec l'apparition du numérique. Hein. Avant, voilà, il y avait des compétences en 35 mm qui n'existe plus en numérique, même s'il y a besoin de compétences précises pour projeter encore maintenant, hein, et pour réparer surtout les machines. Mais le CAP n'existe plus. Je sais qu'il y a des pourparlers pour avoir des nouvelles formations un peu plus... encore plus qualifiante, je veux dire, après, peut-être après le bac, avec des bac, ou des bacs pro, pour, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien d'acté et de fait.
Alors, comment dire, tu viens de nous expliquer que tu as fait des études pour être dans la médiation autour du cinéma, donc pour projeter des films. C'est-à-dire que, comment dire, tu travailles autour du cinéma. Est-ce que tu fabriques de l'image?
Non, ça peut. Alors, j'en fabrique pas pour être projeté. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt de l'initiation et des ateliers à la réalisation. Ça peut arriver. Des ateliers, par exemple. Moi, je travaille beaucoup pour le jeune public dans mon travail, et ça peut arriver, voilà, de faire des initiations au cinéma d'animation, par exemple, de leur expliquer les différentes techniques d'animation. Et là, on réalise des petits bouts de films. Mais c'est pas. Moi, je suis pas réalisatrice. Ni encore moins scénariste, tout ça. Mais voilà, on leur explique, ou des fois on peut faire venir aussi vraiment des professionnels, des réalisateurs de films d'animation aussi, pour qui, voilà, ils vont leur expliquer aussi leur métier, et ça peut leur permettre, voilà, on est plus dans l'éveil au cinéma qu'autre chose. Mais moi, je réalise pas du tout, non.
C'est un regret ?
Non, pas du tout. Oh, non, aucun regret. Non, non, non. Moi, j'ai jamais voulu être réalisatrice, peut-être monteuse, mais j'en fais. Ça va. Oui, le petit bonus aussi dans mon métier. On s'amuse à faire quelques vidéos aussi, quand même, à Cineoff, mais on n'est pas du tout dans la réalisation pure et dure. Mais ça nous amuse plus qu'autre chose. Mais oui, plutôt du montage. Mais non, non, je suis très contente de mon métier, moi. Donc, non, aucun regret. Aucun regret.
D'ailleurs, on invite nos auditeurs à se rendre sur les comptes divers de Cineoff, justement, pour voir les productions de ton équipe, hein, voilà, qui sont toujours très amusantes. Ouais. Hein. Il y a une série de fauteuils qui a été voilà, ouais, produite pendant le confinement, et je pense que vos bandes annonces valent le détour également. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur la médiation. Alors, ouais, c'est quoi la médiation, en fait? Ça consiste en quoi?
Alors, ça regroupe beaucoup de choses, mais c'est plutôt comment on va amener une œuvre au spectateur. Ça va être le lien, voilà, entre la structure, enfin, quand on programme un film, et l'arrivée au spectateur, et comment on va voilà, peut-être lui faire comprendre une œuvre, lui faire découvrir aussi une œuvre, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être aussi bien un film d'animation qu'un film de fiction, un film plus fragile, ou même une comédie. Mais comment on va lui amener l'œuvre au spectateur, ou parce que nous, on travaille beaucoup aussi avec des bénévoles, donc c'est comment voilà, on va amener l'œuvre à quelqu'un. Donc ça peut passer par aussi bien la programmation, la communication, ou une animation, quelle qu'elle soit aussi. Donc ça regroupe plusieurs compétences, plusieurs champs d'action. Et bon, s'il fallait résumer la médiation, c'est ça. Après, on peut rentrer évidemment dans les détails. Et surtout que dans les circuits de cinéma itinérants, la médiation, elle peut prendre vraiment beaucoup d'autres accès, puisque voilà, on travaille énormément avec les bénévoles.
Et alors, justement, est-ce qu'il y a une spécificité de la médiation cinéma? Parce que médiation culturelle, maintenant, on trouve des médiateurs culturels dans beaucoup de structures, hein, dans toutes les disciplines artistiques. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, par exemple, d'être médiateur en cinéma ou cinéma par rapport à médiateur art contemporain, théâtre, littérature?
Ah, c'est que c'est pas la même discipline. Donc, il y a des... il faut avoir à la fois la passion, quand même la passion du cinéma, comme on peut quand on est médiateur d'art contemporain. J'imagine il faut être quand même passionné par ce qu'on, enfin, en tout cas ça aide pour que les gens y viennent aussi, ils nous fassent confiance sur le film, sur l'animation qu'on va proposer. Pour moi, c'est quand même primordial d'avoir quand même la passion du médium, et là en l'occurrence du cinéma. Donc est-ce qu'il y a une différence? Ouais, je sais pas forcément, c'est juste que c'est pas la même forme d'art, en fait, tout simplement. Donc il y a peut-être des champs d'action qui sont pas forcément les mêmes, enfin de l'initiation qui va pas être forcément de la même, on va peut-être pas approcher les choses de la même manière, mais je pourrais pas forcément comparer, parce que peut-être la seule chose que j'ai pas effectivement fait, moi, dans mon travail de recherche, c'est d'aller voir comment ça se passait un peu ailleurs. Ça, j'ai pas eu le... Ouais, je l'ai pas fait. C'est un regret d'ailleurs de pas l'avoir fait. Mais voilà, je peux se concentrer vraiment que sur le cinéma.
Et alors juste une, comment dire, peut-être une question sur c'est quoi la différence avec éducation à l'image ?
Bon, c'est à peu près la même, c'est que j'ai utilisé le terme médiation parce qu'il y a des postes de médiateurs vraiment qui ont été créés par l'État, enfin pas que l'État d'ailleurs, mais il y a quelques années, c'était une envie voilà, d'avoir des postes, de vraiment des personnes payées mais qui fassent vraiment que de la médiation dans les salles de cinéma. Parce qu'il faut savoir, là comme je vous ai dit tout à l'heure, moi mon travail c'est à la fois de coordonner des animations, donc d'être aussi un peu médiatrice entre l'œuvre et les publics, mais aussi d'être projectionniste. Enfin, mon métier il regroupe plusieurs champs d'action, et là ces métiers là il y a des gens il y a plusieurs années qui ont voulu vraiment qu'il y ait des postes qui soient vraiment que sur les projets de la salle, quoi, que sur les projets de médiation. Donc il y a le CNC, le Centre National du Cinéma, les régions et les salles de cinéma. Du coup, il y a des postes qui ont été financés en partie par le CNC et les régions pour avoir ces postes-là aidés à 75%. C'est des grosses aides hein, pour avoir des postes voilà, dans les régions. Alors, il y a des grandes disparités dans ces postes-là à travers les régions pour... plusieurs raisons, mais néanmoins il y en a quand même dans pas mal de régions et ça porte des projets dans les salles et ça commence à porter ses fruits clairement. Quoi.
Alors que...
Et oui, j'ai pas répondu du tout à ta question. Et non mais enfin il y a pas forcément de différence parce que effectivement être médiateur c'est aussi éveiller au cinéma. Donc pour moi l'éducation artistique, même s'il faudrait qu'il y en ait encore plus, généralement les médiateurs sont aussi sur des missions sur les dispositifs scolaires d'éducation à l'image. C'est eux qui des fois peuvent présenter les séances scolaires. Après, chaque poste de médiateur est aussi différent, c'est un peu compliqué de donner une définition claire et précise, surtout.
Alors, j'insiste peut-être un peu, mais c'est, comment dire, sur l'idée de la pensée, enfin, toi, la façon dont tu penses ce qu'est, disons, la médiation cinéma. Parce que tu as mentionné, par exemple, l'idée que d'instaurer une confiance avec le public. Donc, c'est-à-dire, quel est, pour toi, le rapport intéressant dans la médiation, de dire peut-être de ne pas arriver comme un sachant
Complètement. Moi, je pars du principe, effectivement, qu'il ne faut pas arriver avec... Alors, évidemment, moi, j'arrive avec mes fiches, mais j'ai préparé quand même la séance. Mais j'essaie de vulgariser tous les termes, en tout cas d'expliquer tous les termes que le spectateur n'aurait pas forcément connaissance. Ça va des acteurs, des films, aux notions vraiment techniques sur, qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'un travelling, enfin voilà, et d'essayer vraiment de tout expliquer. Et ça va aussi bien pour le jeune public, d'expliquer effectivement comment on fabrique, comme je disais tout à l'heure, un film d'animation. C'est quoi le stop motion quand on dit, moi je sais ce que c'est le stop motion, mais quelqu'un effectivement le stop motion c'est de l'image par image, c'est expliquer effectivement, c'est une technique d'animation, de cinéma d'animation, mais c'est pas la seule. Donc c'est vraiment décortiquer tous les termes et encore une fois éveiller au cinéma par la même occasion et leur montrer au fait que c'est accessible tout ça. Et que moi j'adore quand un enfant effectivement il revient me voir en me disant chez moi après l'atelier j'ai refait un atelier chez moi quoi. Alors c'est pas tout le temps, mais ça fait plaisir en fait. Et effectivement c'est rendre accessible vraiment un qui paraît inaccessible aux yeux de tout le monde. Le cinéma c'est un truc non c'est pas pour moi. Bah si, à une petite échelle ça peut être pour toi en fait.
Donc j'aimerais qu'on revienne aussi sur ces médiateurs, parce que donc tu as expliqué qu'il y avait des postes financés par le CNC, des postes spécifiques.
Ouais, l'État et les régions, ouais.
Voilà, et donc tu as dit aussi que dans certaines structures, c'était pris en charge par des postes polyvalents ou alors peut-être parfois par des bénévoles. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur le profil de ces médiateurs cinéma qui sont embauchés sur ces postes CNC? Ils ont quel genre de formation?
C'est un peu disparate parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de formation de médiateur, par exemple, enfin, de formation initiale pour les postes de médiateur. Donc généralement, c'est les gens, soit ils ont fait des études de cinéma, il y a des formations par exemple à Lyon ou à Paris en éducation à l'image, mais il n'y a pas forcément de formation entière juste sur la médiation cinéma. Tu parlais tout à l'heure des médiations culturelles, donc il y a des formations de médiation culturelle un peu partout à travers la France, mais c'est pas spécialisé cinéma. Donc généralement, je sais que moi les profils qu'on a en région, des médiateurs qu'on a en région, généralement c'est des gens qui ont fait quand même des études de cinéma ou alors qui ont travaillé dans l'éducation populaire et du coup qui ont une approche aussi après tout dépend des chaque poste de médiation peut être différent. Donc nous par exemple pour notre cas en région centre, c'est des gens soit qui travaillent pour le jeune public ou pour les ados, donc on va aussi rechercher des profils qui sont à l'aise avec ces publics là mais généralement c'est des premiers postes aussi, les postes de médiateurs, c'est des gens voilà qui peuvent sortir d'études ou qui ont quelques années d'expérience, mais c'est en tout cas pour les profils parce que évidemment il y en a énormément hein, mais pour ceux que j'ai interviewés dans le cadre de mon mémoire, généralement c'est des gens qui ont très peu d'années d'expérience et c'est leur première expérience professionnelle, ces postes de médiateur, et ça va leur permettre après d'acquérir de nouvelles compétences mais généralement oui, c'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans pour dire une grande échelle, et des gens ouais, qui ont fait des études soit de cinéma ou un peu de médiation culturelle pour la plupart.
Et alors est-ce qu'on a aussi peut-être d'autres profils, c'est-à-dire des gens peut-être un peu plus âgés encore que, mais par exemple sur l'idée de monter en compétence des salariés d'une structure, donc des gens qui ont d'autres postes,
ouais.
Pardon, mais qui seraient formés pour ces actions-là.
Et là, il y a des formations effectivement continues, il y a des associations qui existent. Alors, il faut savoir par exemple en Aquitaine, c'est une des plus grosses régions hein, pour les postes de médiateurs en France, ils ont plus de 20 postes de médiateurs, c'est assez énorme, et eux ils ont aussi eu pour idée, ils disent ok on va embaucher des médiateurs mais ils n'ont pas forcément une formation de médiateurs, donc on va les former dès le début. Donc il y a une association là-bas, une entreprise qui s'appelle Confer qui a monté une formation en lien vraiment avec les salles hein, de cinéma, une formation sur plusieurs modules pour apprendre la médiation. Donc là, effectivement, ça pouvait être des profils totalement différents qui avec ce poste de médiation, mais avec quand même le même bagage de formation. Donc ça, c'est un peu un cas atypique en France. Mais sinon, il y a d'autres associations qui existent, et notamment les Doigts dans la Prise à Paris, qui, eux, forment... sur des petits modules, hein, ça peut être un module de prise de parole en public par exemple, c'est quand même parce que médiateur c'est aussi comme je dis, c'est l'interface entre l'œuvre et son public, donc forcément à un moment donné on doit parler devant le public, donc eux ils organisent différentes formations et notamment des formations continues, donc ça peut quelqu'un qui veut se parfaire dans la médiation, que ça soit soit déjà un médiateur en place, mais aussi quelqu'un qui veut quelqu'un qui veut juste évoluer professionnellement, grâce à l'AFDAS, à toutes les formations et à son compte de formation, il peut accéder à ces formations là. Ouais.
Et comment ça se traduit après dans une structure, si on a un salarié qui monte en compétences, qui développe de nouvelles compétences? Est-ce qu'on réorganise la structure? Comment ça se passe?
Après, tout dépend chaque structure est un peu différente. Donc, je peux parler de ce que je connais à Cineoff. On est déjà un peu, nous, dans cette optique-là, parce que nous, on aimerait effectivement faire un peu plus de médiation. J'ai des collègues qui aimeraient, en tout cas, peut-être faire de. Oui, je ne peux pas parler à leur place, mais peut-être faire de la formation. En tout cas, ils ont une appétence pour acquérir et en tout cas en faire, puisqu'ils présentent des fois, si on leur met des outils en place, ils peuvent présenter des séances, donc moi je considère qu'en tout cas ils ont une envie d'évoluer et mais tout dépend, puis tout dépend après, c'est une question de coût, hein, c'est une question de réorganisation, tout dépend du modèle économique de la structure, après il faut savoir que les médiateurs, la convention collective du cinéma, elle est pas, c'est pas des salaires mirobolants, donc les médiateurs, encore une fois, à la fois, il n'y a pas de formation claire et nette, mais il n'y a aussi pas forcément de statut dans la convention collective de médiateur. Hein. Le poste médiateur n'apparaît pas dans la convention collective du cinéma, donc on peut être payé soit comme un animateur, après ça dépend la structure sous quelle... Des fois ça peut être même la convention collective de l'animation et pas de l'exploitation. Donc évidemment, dans la convention de l'animation, par exemple, il n'y a pas le 13e mois, alors que dans la... l'exploitation, il y a le 13e mois. Enfin, il n'y a pas de statut clair, en fait. Hein. C'est vraiment, on est au début de quelque chose. Là, ça fait 5 ans que ça existe, ce poste-là. Mais il y a des trucs qui ne sont pas encore clairs. Quoi. Ouais.
Eh bien, je propose de faire une première pause musicale pour déjà... pencher sur tout ce que tu viens de nous expliquer. Et nous allons écouter, bon, je crois que je ne trahis pas un secret en disant que c'est une chanteuse que tu aimes beaucoup, une chanson que tu aimes beaucoup. Donc voilà, ce que je pense qu'elle a déjà été diffusée
maintes
fois dans Plan Séquence.
Donc, je crois savoir.
Je propose d'écouter Anne Sylvestre, les gens qui doutent.
Magnifique.
Et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne. Vous écoutez Radio Campus Tour, bien sûr.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
La merveilleuse, l'incroyable,
magnifique.
La grande, magnifique Anne Sylvestre. Bon, vous aurez compris que nous sommes fans à Radio Campus de cette incroyable chanteuse. Donc, dans ce mémoire, rappelons-le tout de même, Solène, que tu as soutenu à Fémis.
Il y a deux semaines.
Il y a deux semaines, et donc tu as eu ce titre de directeur d'exploitation cinématographique. Félicitations.
Merci, merci.
Donc, le mémoire, c'est de l'utilité de la médiation dans les circuits de cinéma itinérants. Voilà, j'ai réussi à le dire sans.
Il est long ce titre.
Voilà, et donc dans ce travail, tu te penches aussi sur les outils de la médiation à travers les réseaux de salles fixes et circuits itinérants. Voilà, un panel de pratiques. Donc tout à l'heure, tu expliquais qu'il y avait la médiation, certes, mais il y avait aussi d'importantes missions de programmation et de communication. Est-ce que tu veux nous en dire plus ?
Bah en fait, dans les circuits de cinéma itinérants, il y en a. Tous les circuits sont un peu différents, donc les pratiques sont aussi différentes. Mais je me suis concentré sur les gros circuits de cinéma itinérant, un peu similaires. L'idée, c'était aussi de faire un comparatif un peu avec ma structure pour voir aussi quels outils on pourrait aussi prendre et pourquoi pas faire venir des idées, en tout cas, dans nos structures, et que ça puisse servir surtout aussi à d'autres, hein, pas que à Cineoff, hein, mais à d'autres structures. Et donc, je me suis penchée d'abord aux grandes structures qui ont des salariés. Il y en a certains qui ont aussi que des bénévoles, mais il y a 109 circuits de cinéma itinérant en France. Hein. Il y en a qui sont très petits, je dirais avec un ou deux points de projection. Et puis il y en a qu'on a vraiment des fois ouais, plus de 30, voire 40. Je pense à Cinélic dans le nord de la France qu'on a énormément. Et donc tous ces circuits-là ont des façons de travailler différentes, évidemment. Hein. On ne va pas travailler de la même façon si on a deux points de projection que si on en a 40. Donc nous, à Cinéof, on en a 25-26. Donc c'est aussi des manières de travailler différentes. Néanmoins, et c'est comment on travaille aussi quand on est avec des bénévoles. Puisque, enfin, le début en fait de mon travail, c'est parti du constat que voilà, je vais reparler de la programmation, mais sur des films, voilà, qu'on programme, des fois on a du mal à fédérer des bénévoles sur des films plus fragiles. Ils vont nous dire clairement, c'est pas pour nous ce film-là. Des films qu'on estampille art et essai, c'est-à-dire des films voilà qui pour différentes voilà, qui vont être pas forcément dans du mainstream, dans de la comédie facile. On va être dans une recherche, dans une découverte d'une autre cinématographie avec des enjeux des fois sociétaux. Et des fois, ils nous disent non, c'est pas pour nous, ça va pas plaire à notre public. Et la médiation, elle rentre du coup directement, quoi. C'est comment on va les inciter à programmer quand même ce film-là dans leur salle. Donc pour la programmation, c'est pareil. C'est comment, voilà, je parle de Cinéof. Ma directrice, du coup, fait une réunion mensuelle, du coup, en chaque début de mois avec certains bénévoles. Elle fait la programmation, mais voilà, elle va aussi avoir une case pour les bénévoles, pour savoir quels films voilà, ils souhaitent aussi programmer dans leur salle. Et elle va voilà, faire leur expliquer tous les films qu'elle a pensé, en tout cas programmer. C'est pas, elle n'impose pas non plus, mais en tout cas, elle fait une proposition de programmation. Donc déjà, on est dans la médiation, parce qu'elle va voilà, déjà leur dire, voilà, ce film-là, moi, je l'aime bien pour telle ou telle raison, et il serait intéressant de le programmer pour telle ou telle raison, cet autre film-là. Et les bénévoles peuvent leur dire « Ah non, moi je le sens pas ce film-là, ou ce film-là non plus, je le sens pas. » Donc on est clairement dans de la médiation. Et dans certains circuits de cinéma itinérant, je pense à Cinélig, eux ils font pareil, des réunions assez régulièrement avec leurs bénévoles. Et ils vont établir ce qu'on appelle tout simplement des listes hein, de films que eux repèrent à droite à gauche. Et ils vont émettre des arguments pour ou contre, enfin plutôt pour d'ailleurs, pourquoi ça serait intéressant de le programmer dans tel ou tel cas. Et ça peut aller aussi bien du documentaire au film à caractère social ou même une comédie, hein, peu importe. Et du coup, la médiation, elle rentre, voilà, c'est faire confiance en tout cas aux programmateurs professionnels. Et voilà, enfin, je m'en mets les pinceaux, là, ma réponse n'est pas du tout claire. J'espère que c'était clair derrière pour vous, les auditeurs.
Non, mais c'est intéressant sur cet exercice de programmation de dire, bah oui, c'est pas juste, allez, je vais mettre 5 films que j'aime bien et basta. Voilà, qu'il y a un souci donc, de faire découvrir, de choisir des films, donc à réessayer, mais d'autres aussi, et de donner une vraie place. Aux bénévoles, donc finalement, est-ce que c'est aussi faire confiance à leur expertise de bénévole ?
Aussi, ouais, parce que des fois, c'est qu'à Cinéof, des fois, on peut aussi faire confiance aussi aux projectionnistes qui, eux, sont sur le terrain, puisque effectivement, la différence avec une salle fixe, c'est que dans un circuit itinérant ou même dans un réseau de salles comme le nôtre, on n'est pas toujours sur place. Donc effectivement, il faut faire confiance aux bénévoles et aux gens qui sont sur place, comme les projectionnistes qui vont en séance, pour leur dire, moi j'ai entendu, il y a des gens qui ont parlé de ce film-là, est-ce que tu as prévu de le programmer ou pas ? Parce que vraiment, les gens en ont vraiment beaucoup parlé. Et puis après, aussi dans l'inverse, dire, ouais, là, on a programmé ce film-là, il y a eu des... Enfin, les gens nous ont remercié de l'avoir programmé, ils seraient peut-être pas allés le voir sinon. Enfin, il y a tout ce... Puis après, l'inverse, hein, y a des gens qui n'aiment pas tel film, mais ça, c'est le jeu, hein, évidemment. On ne peut pas tout aimer. Et puis programmer, effectivement, c'est pas comme tu dis, c'est pas programmer que ce qu'on aime. Hein, ça serait, je pense que ça serait la faillite de tous les cinémas. Mais non, c'est programmer selon, effectivement, le public aussi qu'on a en face de nous. Et programmer, c'est aussi renoncer. Donc, il y a des films qu'on aime bien aussi, qu'on passe pas pour parce que déjà on peut pas tout passer et puis faire confiance effectivement des fois à un film, à un potentiel d'un film Je sais pas, par exemple, dernièrement, je me souviens, on a passé La Panthère des Neiges. C'est un film qu'on a beaucoup aimé. On s'est dit, ouais, vraiment, il faut qu'on le passe. C'est un, pour plusieurs raisons, un documentaire voilà, qui laisse le place à la contemplation, à la méditation. On s'est dit, sur le papier, je sais pas si ça va forcément marcher. Il y avait Sylvain Tesson en tête d'affiche, mais bon, sur le papier, c'est pas non plus... on a été agréablement surpris parce que ça a bien fonctionné. Et puis les gens, surtout les réactions des gens derrière, quoi, en disant non, bah, merci, ouais, d'avoir passé. On a passé un très bon moment et même des salles qui applaudissaient. Donc c'est, ça fait plaisir en fait. On se dit, on sert à quelque chose. Alors que l'année dernière, on servait à rien. Donc voilà, ça fait plaisir, ouais.
Et d'ailleurs, cette idée de faire plaisir, comment elle est prise en compte dans la programmation? Parce que voilà, tu expliques que c'est un équilibre savant en fait entre des films à faire découvrir et des films où on sait, bon, ouais, pardon d'être aussi terre à terre, mais qu'ils vont marcher entre ouais. guillemets.
Mais des fois on se gourre, hein. Des fois on peut se dire dans ce film-là, ça va cartonner, enfin ça va bien marcher parce que on en a entendu parler partout. Je sais pas, dernièrement par exemple une comédie, je sais pas, comme Les Tuches par exemple. Les Tuches, on se dit sur le papier. Ça va bien marcher. Enfin, je veux dire, c'est le quatrième opus, les trois autres ont bien marché. Ça a marché, mais c'est pas non plus des corps. Alors que contre les Baudins, on sait que ça va, chez nous, ça va marcher. Ça a très bien marché, même au-delà, je pense, que de ce qu'on. Bon, non, on savait que ça allait cartonner. Mais là, clairement, voilà, on n'aurait pas passé les Baudins, par exemple. Je pense que je ne serais pas là à vous parler actuellement parce que j'aurais été. On aurait été très mal reçus si on n'avait pas passé les Baudins. Et les gens étaient contents qu'on le passe. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que quand on a passé Les Baudins, c'était la même semaine, on passait aussi La Fracture, deux films totalement différents. La Fracture de Catherine Corsini sur qui se passe pendant la crise des Gilets jaunes, enfin, un film social avec Pio Marmaille et j'ai perdu le nom de l'autre actrice. Et il y avait Marina Foy aussi dedans. Et je me souviens qu'on passait le film à 18h, à 20h30, il y avait Les Baudins, donc les deux publics se croisaient. Mais je pense aucun des deux n'allait aller voir l'autre film. Et c'était. On fait aussi du cinéma pour ça. Le public s'est croisé, on en a pour tous les goûts. Chacun avait envie de voir le film qu'il voulait. Et c'était très bien, quoi. Et moi, c'est ça que le cinéma que je veux défendre, c'est un cinéma vraiment. Une pluralité des propositions et au final, le spectateur, il vient quand même au cinéma voir un film.
Et donc, pourquoi cette affection pour les Baudins dans le cadre de Cinéoff, en fait?
Ah bah c'est dans le cadre de La Touraine, hein, là, les Baudins, c'est Descartes, c'est né en Touraine, les Baudins, leur ferme est à Descartes, leur spectacle cartonne tous les ans, ça fait des années, c'est des décennies qu'ils existent, quand le film est sorti, en plus avec la campagne de promotion qu'il y a eu autour, c'était obligé et les gens en fait sont venus déjà en avant-première les voir, ils étaient contents, certains n'étaient jamais venus au cinéma, certains ça faisait des années qu'ils n'étaient pas revenus, donc rien que pour ça, ils voulaient voir les Baudins sur grand écran, parce qu'ils vont les voir, ils les regardent à la télé, ça cartonne à la télé, hein, les Baudins, ils les regardent en spectacle, leur spectacle c'est tous les ans c'est complet, et ils étaient... Le film ils ont été un peu déçus du film pour plusieurs raisons. Ils préfèrent le spectacle, mais néanmoins, voilà, on va pas cracher dessus. Ça a fait des entrées et les gens étaient contents dans la plupart du temps des cas et surtout ils étaient contents d'être dans la salle de cinéma. Donc nous, on va pas se plaindre. Hein. Bon.
Et donc cette idée de dire les Baudins c'est à Descartes, donc du coup c'est il y a comment dire, c'est des célébrités locales, hein,
ouais, complètement, ouais.
Et voilà, de dire c'est aussi des gens qui parlent peut-être du monde rural d'une certaine façon, bon, dans une veine comique, mais du coup comment dire, entre l'idée de comment on évite aussi l'écueil de se dire tiens je choisis ce film parce que ça va forcément parler aux gens, c'est-à-dire par exemple j'ai un circuit itinérant en milieu rural, attention à ne pas mettre que des films sur le monde rural, par exemple.
Non, bien sûr. Mais après, tout dépend. Je sais pas, là, il y en a un bientôt qui sort, Les Folies Fermières de Jean-Pierre Améris. On va on va le passer. Mais effectivement, c'est un équilibre. On essaye, mais là, comme les Baudins, ou je sais pas, ou même Top Petit Paysan, quand c'était sorti, dans une autre veine, hein, c'est un film beaucoup plus dur, ou même La Nuée. On l'a pas passé sur le circuit itinérant, La Nuée, mais c'est des films, nous, on les passe, qu'on les aime aussi beaucoup. Donc, on a envie aussi de les défendre et de défendre, bah, d'une certaine manière, le monde rural à travers ces films, en fait. Donc, les montrer, c'est aussi après entamer, comme pour La Nuée ou Petit Paysan, bah, pourquoi pas une discussion autour des thématiques qu'il y a dans le film, quoi. Et les gens sont contents aussi de parler des thématiques qui les touchent aussi en premier lieu dans ces territoires-là, quoi.
Est-ce qu'il y a des demandes carrément des habitants, en fait, de films? Est-ce que vous avez des réclamations?
Des habitants, pas forcément, mais dernièrement, par contre, d'associations, des fois, ça peut arriver. Et dernièrement, par exemple, on a été en contact, c'est le dernier exemple en date, une association France Alzheimer, du coup, en Sarthe, qui voulait qu'on passe un film qui s'appelle Une vie démente, qu'on a passé il y a un peu moins d'un mois, là, à Château-du-Loir, en présence de France Alzheimer Sarthe. Il y avait aussi une aidante qui était là. C'est une très chouette séance, un film qui était sorti il y a plusieurs mois, donc nous qu'on n'avait pas passé à l'époque, un film franco-suisse, et qui avait un premier film, donc c'était pas forcément avec aucune tête d'affiche, enfin c'était qui avait pas eu forcément beaucoup de presse, mais nous qu'on a énormément aimé. Et dans ce cadre-là, accompagné en tout cas par une association, ça crée déjà plus, on revient à la médiation, ça crée un accompagnement supplémentaire, et la séance était chouette, parce qu'on a fait pas loin de 50, je crois, ce soir-là. Donc c'était pas mal sur un film, surtout qui n'a pas eu grande presse, et puis sur un sujet qui n'est pas évident, surtout aussi sur la dépendance, quoi.
Alors, t'as dit, on a fait pas loin de 50. Est-ce que tu peux préciser? Est-ce que je suis pas sûre que ce soit une évidence pour nos auditeurs?
Oui, on a fait ce soir-là, en tout cas, environ une cinquantaine de spectateurs à cette soirée. Ce qui est, en ce moment, la reprise est très compliquée. Là, on a réouvert depuis un peu moins d'un an. C'était le 19 mai qu'on a rouvert les salles, après quand même 7 mois de fermeture. Donc là, les gens sont pas encore tous revenus en salle, loin de là. Il y a à peu près, pour vous dire, entre moins 30, moins 40% par rapport à 2019, sachant que 2019 était une année record, donc bon, l'année de comparaison n'est pas forcément la meilleure, mais quand même. Donc on use de plein de stratagèmes pour essayer de faire revenir les gens. Donc c'est vrai que des films, comme tout à l'heure on parlait des Baudins, ça crée un peu plus, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque les autres films ne fonctionnent pas forcément tout à fait. Mais par contre, on se veut quand même optimiste, même si là la période n'est pas forcément la meilleure, mais c'est pour ça qu'on met en place plein de projets pour essayer de faire revenir les gens en salle de cinéma.
Et alors, quel est le rôle de la communication, justement, dans ce que tu dis? On use de stratagèmes divers et variés pour faire revenir les gens. Donc, une idée de se faire de la pub, quoi, d'être visible. Donc, quel est le rôle de la com?
On est déjà présents sur tout ce qui est réseaux sociaux. Après, la communication, elle se fait aussi sur le terrain. Donc, encore une fois, c'est les bénévoles qui nous aident à communiquer sur le terrain, puisqu'on n'est pas là, nous. Donc, nous, on leur fournit, en tout cas, pour... Pour ce qui est de Cinéoff, après ça diffère selon les circuits de cinéma itinérant, mais certains, ça peut être la commune qui fait la communication. Nous, on leur fournit tout. Et c'est eux, après, sur le terrain, qui vont mettre dans les commerces, communiquer auprès, je sais pas, pour une séance jeune public, communiquer à l'école, communiquer au centre de loisirs pour les faire venir. Et ça, après, ça dépend des communes. Il y a des communes qui répondent présentes assez rapidement, en tout cas pour ce qui est des séances jeunes publics dans les centres de loisirs et les écoles, et puis d'autres où c'est un peu plus compliqué, mais on sent quand même là dernièrement, en tout cas, une appétence, en tout cas pour le jeune public, à avoir des propositions. Et là, pour le jeune public, on est un peu moins c'est un peu moins difficile, puisque effectivement les parents après le confinement, en tout cas, avaient envie d'avoir des propositions de sortie et se sont rués un peu au cinéma, mais pas comme avant non plus, on va pas se mentir, mais en tout cas, on n'a pas forcément perdu trop de public pour le jeune public, même si on en a perdu quand même.
Et donc, ces bénévoles qui sont missionnés localement pour aller faire connaître les activités proposées par Cinéof, c'est qui en fait?
C'est principalement des retraités. voilà. Alors ça, c'est aussi un gros... je pense qu'il pourrait y avoir un mémoire là-dessus sur le renouvellement des bénévoles. Mais je pense que c'est un peu aussi pareil hein, dans toutes les associations. Mais oui, principalement des retraités. Des fois, on a quand même pas mal d'anciens instits. Donc c'est pas mal aussi pour le jeune public, par exemple, puisqu'ils ont déjà été en contact avec des enfants. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, ouais, principalement. Mais après, on peut avoir... Enfin, c'est pas que ça, parce qu'effectivement, dans certaines communes, on a aussi des élus qui peuvent faire la caisse, notamment. Et du coup, c'est des élus qui ont un travail à côté, qui sont encore actifs, eux. Donc c'est... Et puis, dans certaines communes, on a vraiment des actifs. Et peut-être que ça va changer, je me dis, aussi avec les gens aussi qui déménagent à la campagne, en tout cas dans des communes plus petites, peut-être qu'ils vont avoir envie de s'engager dans des actions plus ponctuelles sur, je sais pas, un festival qu'on pourrait mettre en place ou des missions plus précises, je sais pas, à la fois de communication sur, je pensais à des jeunes, même sur des réseaux sociaux, ça pourrait être les intéresser de nous aider à communiquer. On n'a pas de TikTok, par exemple, donc je lance un appel s'il y a un jeune qui nous écoute et qui veut nous aider à qu'on se lance sur TikTok, à ce qu'on fasse des, je sais pas, des chorégraphies, je sais pas.
Voilà, sachant que les acteurs sont fournis. Hein,
oui, on a des acteurs maison, ouais. On a des très bons acteurs qui n'ont pas fait de cours de comédie et qui sont très très bons. Donc je me dis, même avec des cours de comédie, là, on ferait peut-être prochainement un César.
Et alors justement, puisque tu parlais de ce jeune public, est-ce que tu veux nous en dire plus? Alors comment on met en place une animation jeune public? Parce que c'est pas forcément que pendant l'école.
Ah non, bah nous c'est principalement d'ailleurs hors temps scolaire hein, ce qu'on fait. En temps scolaire, nous on fait les dispositifs scolaires, donc c'est école au cinéma, collège au cinéma et lycéen au cinéma, lycéen et apprenti au cinéma pardon. Et donc ils vont voir pour les dispositifs scolaires, hein, les enseignants en fait s'engagent à aller voir 3 films par an, des films qui sont choisis par une coordination départementale pour école et cinéma. Donc là, par exemple, au troisième trimestre, ils vont aller voir notamment Ma vie de courgette de Claude Barras et j'ai perdu le nom du réalisateur. Et là, généralement, nous, les enseignants ont des outils pédagogiques, donc c'est eux qui font l'accompagnement. Nous, on fait une présentation du film très succincte avant le film. Donc ça, c'est pour les dispositifs scolaires. Et hors temps scolaire, on a aussi des dispositifs, nous, à Cinéof. On est adhérent notamment à l'association des cinémas du centre. Donc grâce à cette association-là, on peut... s'engager dans des dispositifs pour le jeune public, notamment 1, 2, 3 ciné. Sans cette association-là, il y a plein d'animations qu'on ne pourrait pas mettre en place, en tout cas des dispositifs, puisque ça nous permet de mutualiser aussi les coûts et de faire ensemble avec d'autres cinémas de la région. Hein. 1, 2, 3 ciné, ça regroupe, ça a encore augmenté, mais c'est plus de 30 cinémas, hein, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne vais pas me gourer d'ailleurs, je n'ai pas les fiches sous le nez. Mais nous, c'est pour notre cas, en tout cas, Cinéof, c'est 8 salles de notre réseau qui participent à ce dispositif-là mensuel. Donc c'est de septembre à mai. Il y a un film jeune public art et essai qui est projeté dans ces 8 salles. Donc c'est vraiment assez costaud. Et toutes ces séances-là sont présentées. Il n'y a pas forcément un atelier après chaque film, parce que pour des raisons logistiques, de personnel aussi, hein, parce que moi je ne peux pas être là non plus aux 8 séances à chaque fois. Donc on essaie quand même que la séance soit présentée. Et sinon, pour les ateliers, moi des fois je propose des ateliers un peu maison. Ça peut être sur ces films-là, 1, 2, 3 ciné notamment. Un exemple, là, je vais prendre l'exemple du mois d'avril qui arrive. Qu'on passe Maman pleut des cordes pendant les j'ai perdu son nom de famille à Hugo et c'est un film d'animation et là j'ai proposé une animation de un peu une discussion après le film pour montrer aux enfants comment le film a été préparé et réalisé. Le réalisateur, il peut pas venir. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques semaines. Donc, il avait fait cet atelier-là en vivant avec du jeune public. Donc, j'ai pu voir aussi comment lui avait pu présenter son travail. Donc il faut savoir que le distributeur de ce film-là, les films du Préau, ont mis sur leur site internet plein d'outils ressources pour nous aider aussi à préparer ces ateliers-là. Donc moi, je me réfère aussi à leur, aux interviews, voilà, à tout ce qui peut exister en termes de ressources, et puis après, ma sensibilité vis-à-vis du film. Et je prépare un canevas, que je projette en salle. Et c'est là, en tout cas, l'atelier, ça sera vraiment des questions-réponses par rapport à ce que les enfants auront compris du film. Moi, je leur apporterai vraiment des notions techniques de ce que le réalisateur aura voulu dire et faire par rapport à son film. Et ça sera vraiment une question-réponse pendant 20-25 minutes pour essayer d'aller un peu plus loin que le film, quoi. Et donc voilà, ça c'est les prochains exemples, mais sinon ça peut être juste des ateliers de découpage, genre là pour Zébulon le dragon, on avait fait, c'est vraiment pour les tout petits, donc comme ça ils repartent avec leur masque de Zébulon, ils sont contents. Enfin voilà, après tout dépend de l'âge aussi du jeune public. Quand c'est 2-3 ans, oui, ça va être un truc très très ludique qui va durer pas très longtemps. Généralement, c'est plus les grands-parents et les parents d'ailleurs qui découpent. Et puis après, s'ils ont 8-10 ans, ça peut être un atelier de réalisation par rapport à la technique d'animation du film qu'on aura projeté. Mais j'essaie toujours de me baser du film, en fait. Et par exemple, voilà, pour Maman Play Décor, ça sera vraiment autour de la réalisation du film. On avait fait quoi dernièrement pour Princesse Dragon, qu'on a passé au mois de février. Pauline, qui est médiatrice dans un cinéma en région centre, elle avait fait un quiz autour des princesses et du cinéma, des princesses au cinéma. Et du coup, cet outil-là qu'elle avait créé, elle nous l'a partagé à tous les cinémas. Donc moi, j'ai pu utiliser le quiz pour le projeter en salle. L'idée, c'est de mutualiser aussi les outils qu'on fait à droite à gauche. Et ça, c'est vraiment notre objectif là, dans les prochains mois, que tous les outils qu'on crée dans les cinémas en région centre, qu'on mutualise tous ces outils-là et que ça puisse servir à tout le monde, en fait. Et vu qu'on s'entend bien, on aimerait bien encore plus que chacun fasse pas tout dans son coin, quoi, parce qu'au final, on pourrait chacun bosser sur un film différent et puis après, comme ça, on met ça dans un pot commun, c'est encore plus chouette.
Et on peut aussi dire qu'il y a d'autres types d'ateliers. Je crois que vous faites des ateliers stop motion.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais, il y a des ateliers avec un outil qui s'appelle le Makey Makey. Enfin, il y a plein d'autres supports.
Bah, des outils vraiment techniques, effectivement. Ça peut être des ateliers de réalisation. On avait fait des ciné-bruitages aussi. Et j'aime bien l'idée, surtout avec les outils numériques, parce qu'on parle que d'outils numériques, c'est que les enfants puissent aussi après les réaliser chez eux, en fait, avec des... Vraiment, ça peut être maintenant avec un smartphone, on peut faire des ateliers stop motion, on peut faire... il n'y a pas forcément besoin d'avoir la dernière caméra, dernier cri pour faire un film. Et c'est de dire, encore une fois, aux enfants, c'est accessible, en fait. Vous n'allez pas forcément faire un long métrage, mais vous pouvez vous initier. Et c'est ce terme d'initiation et de sensibilisation, moi, que j'aime bien... Et de leur dire, c'est possible, en fait, vous avez envie de faire quelque chose, un film, du bruitage, vous initiez à tous ces métiers-là qui sont un peu obscurs, peut-être, pour vous, non, c'est possible. Et du coup, j'aime bien cette idée-là. Ouais.
Et donc, tu es à présent, tu as le titre, donc tu es directrice d'exploitation cinématographique, selon le titre conféré par la FEMIS. Et... qu'est-ce qui t'attend maintenant que tu as ce diplôme?
Ce qui m'attend, c'est que j'ai la formidable chance qu'on m'ait proposé de reprendre la direction de Cineof. Ma directrice actuelle, Monique Augereau, part à la retraite bientôt. Et elle m'a proposé, le bureau aussi m'a proposé de reprendre la suite. Donc après quelques temps d'hésitation quand même, j'ai accepté, puisque c'est quand même une opportunité qui est assez belle, et je mesure cette chance-là à même pas 34 ans de reprendre cette belle association qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine, quoi. Ça va être une formidable aventure avec une chouette équipe, des compétences diverses à droite à gauche dans cette équipe, et on s'entend tous bien, donc ça va bien se passer.
Et donc parce que là on voit aussi donc dans ce mémoire, hein, quand même qui est très intéressant. Voilà, je conseille à qui peut le lire de le lire.
Bah, il sera mis en ligne sur le site de l'ANSI. L'ANSI, c'est l'Association nationale des cinémas itinérants. Et ils ont un numéro tous les 2-3 mois là, de leur journal. Et le prochain numéro est sur la médiation, le renouvellement des publics, plus exactement. Et Tristan, qui est salarié de l'ANSI, va le mettre en ligne. Donc voilà.
Voilà, donc avis aux auditeurs intéressés, vous pourrez lire ce travail fait par toi, Solène. Et donc, quels autres enseignements ce mémoire t'a apporté pour ta future prise de poste? Parce que tu as mentionné la boîte à outils numériques, mais je suppose que tu as d'autres pistes, en fait, pour...
Moi, j'aimerais vraiment... c'était vraiment dans d'autres circuits, ils ont ça, mais vraiment qu'il y a un cap, vraiment. Alors, on l'a amorcé déjà, hein, ça fait plusieurs temps qu'on l'a amorcé, mais vraiment continuer, en tout cas, sur vraiment former aussi les équipes à la prise de parole en public, par exemple. Je sais que tous mes collègues ne sont pas forcément enclins à parler devant le public, ce que je comprends totalement, hein, évidemment, parce que c'est pas leur métier. Mais néanmoins, il y en a certains qui souhaitent continuer, parce qu'ils savent aussi la plus-value de faire ça, de parler devant un film de façon très, très, très succincte. Hein, mais il y a des formations qui existent, donc moi j'aimerais bien qu'on forme en tout cas les gens qui le souhaitent à la prise de parole en public et un peu à des notions de médiation. Alors ça peut être fait en interne, hein, parce qu'il y a il y en a qui ont des compétences en interne pour former aussi à ça, et à la fois les salariés mais aussi les bénévoles, puisque comme je dis encore une fois, on a beaucoup de bénévoles à travers le réseau, et moi j'en suis certaine que à travers les différentes rencontres qu'on a pu faire, il y en a qui ont envie aussi un peu de d'apprendre de nouvelles choses aussi, donc c'est continuer dans cette velléité là de former les gens à la plus-value de la médiation dans leur salle. Donc ça peut passer par la prise de parole en public, mais ça peut aussi passer par aller rencontrer avec nous des acteurs locaux, des centres de loisirs, des collèges, et ça, ils sont ancrés sur le territoire, ces bénévoles-là. Donc nous, c'est vrai qu'on est basé à Tours, on connaît évidemment tous ces territoires-là, mais on n'est pas sur place. Donc eux, ils connaissent aussi les associations, les partenaires locaux, des fois beaucoup mieux que nous. Donc ils peuvent nous servir d'appui, clairement, pour aller rencontrer tous ces partenaires-là potentiels. Et c'est les aider et aller avec eux à ces réunions-là et montrer aux acteurs toutes les passerelles qu'on pourrait faire entre leur structure et le cinéma, quoi. Donc c'est continuer dans cette optique-là. Ça va passer par des réunions régulières avec les bénévoles. Enfin, moi, j'aimerais bien, par exemple, faire... On a déjà discuté, mais de faire une grosse réunion, ça existait avant, c'était un peu en stand-by ces dernières années, mais une grande réunion bénévole salariée une fois par an, un grand raout un peu, où tout le monde se rencontre, puisque effectivement on est sur différents territoires, différentes communes, donc les bénévoles ne se connaissent pas forcément les uns les autres, et une fois dans l'année se rencontrer pour savoir ce que fait l'autre dans sa commune, et du coup créer des idées et une mutualisation de tout ça, parce que certains connaissent pas forcément ce que fait l'autre, pourtant c'est même à 20 km, donc c'est créer des temps forts comme ça, donc voilà, mais on est qu'au début, et puis après ouais, j'aimerais bien aussi créer une genre de plateforme où aussi les gens pourraient recueillir les différentes idées et qu'on mette à disposition des outils. Par exemple, on a créé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, des fiches de présentation des films. Moi, je fabrique avec un autre collègue, et du coup, ces fiches-là servent aux autres collègues pour présenter les films, et pourraient être mis à disposition sur cette plateforme pour que tout le monde puisse, au lieu d'envoyer des mails, en fait, on met directement ça sur cet outil numérique, et après formation, des bénévoles et des salariés qui le souhaitent, en tout cas, ils peuvent s'emparer de cette fiche et présenter le film 2-3 minutes avant la projection aux spectateurs.
Donc la transmission de savoir, c'est une excellente façon d'investir plus les bénévoles?
Ouais, je pense, ouais. Et puis leur fournir des missions précises, parce que j'avais rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup dans le métier qui s'appelle Raphaël Maestro, et qui me le disait, c'est fini le temps où tu demandes à des bénévoles d'installer des 10 chaises dans une salle des fêtes, faut donner des missions qui ont un peu plus d'ampleur, en fait, où les gens vont se sentir encore plus responsables d'un projet. Et ça peut passer par, voilà, on parlait de la communication, de la programmation, ou nous aider à faire voilà, une affiche, ou il y a même des bénévoles dans certaines communes qui ça peut leur arriver de faire de la projection, par exemple. Bah, c'est de leur donner un peu plus d'ampleur aux missions et qu'ils se sentent encore plus investis du projet global de la salle, je trouve, en fait.
Oui, donc responsabilité partagée.
Oui, complètement. Ouais. Puis c'est valorisant pour eux de se dire ouais, on fait confiance en fait de projeter un film. Enfin, on m'a formé pour projeter. Et évidemment, après, c'est toujours un métier de professionnel. Hein, et on ne veut pas non plus que ce soit que des bénévoles qui. Mais ils arrivent quand même. Des fois, ils nous sortent de belles épines dans le pied, au pied levé. Et puis, on ne les remerciera jamais assez pour tout ce qu'ils font sur le territoire. Enfin, sans eux, en fait, il n'y aurait pas. On ferait pas autant d'activités, en fait, clairement. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui ne se feraient pas s'il n'y avait pas autant de bénévoles, c'est qui font la caisse, voilà, qui distribuent encore une fois les programmes. Ils sont là pour nous aider des fois à mettre en place des animations, hein, dans des temps forts comme des festivals. Et donc clairement, mais ça va être la grosse question aussi de ces prochaines années, c'est le renouvellement aussi des à la fois du public, mais des bénévoles. Et là, je n'ai pas de réponse. Si vous avez des réponses à ces questions-là, n'hésitez pas à appeler Radio Campus ou Cinéoff.
Bon bah c'est un des chantiers qui t'attendent dans les années à venir.
Ouais.
Donc, Cinéoff, est-ce que tu veux nous rappeler peut-être où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux? C'est quoi les prochaines séances à venir?
Ouais, je reprends demain.
Non, t'inquiète.
La prochaine séance, c'est vendredi. Il y a des séances aujourd'hui, mais je veux dire, la prochaine animation, c'est vendredi. Vendredi 8 avril à Langeais, on reçoit le réalisateur Sylvain Descloux pour son film Campagne de France, sur la campagne municipale de Preuilly-sur-Claise. Donc venez, le film est vraiment... En plus, on est à 4 jours une prochaine grande échéance. Donc, je pense que le débat va être assez chouette. Et puis ça questionne vraiment la politique locale et comment on implique aussi les habitants à toute la démocratie locale. Et c'est un film vraiment très 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 chouette. Et Sylvain en parle vraiment très bien. Donc et puis pendant les vacances d'avril qui arrivent, il y a pas mal d'animations aussi pour le jeune public et pour nous retrouver. Donc on a un site internet www.ciné-off.fr et puis sinon sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Cinéoff, le cinéma autrement, nous retrouver.
Et on reconnaît vos camions à ce petit logo, oui. De petits camions sur...
Oui, ça, bientôt, pour projet de... Enfin, le logo changera peut-être dans les prochaines années aussi.
Ah, bon, affaire à suivre.
Affaire à suivre, ouais.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Mélissa.
Solène,
c'était bien chouette.
Merci d'être venue dans cette méridienne pour nous parler de ce mémoire directeur d'exploitation cinématographique que tu viens d'obtenir à la FEMIS.
Et juste si je peux me permettre, je pense pas qu'elle m'écoute parce qu'elle est en plein préparatif, là, mais dans ma promo, il y avait, on a été vraiment une chouette équipe. J'ai rencontré vraiment des amis. Et aujourd'hui, Célia, Olivier, qui a fait un mémoire, un super mémoire sur comment on implique les habitants à la salle de cinéma, ouvre son cinéma aujourd'hui à salle d'air de Béarn. Donc un gros coucou à elle. Elle m'écoute pas du tout, mais voilà, je pense à elle en tout cas.
Dans le Béarn, et bien c'est une autre façon d'y penser par les temps qui courent, donc félicitations à elle également, et je pense que son mémoire devait être fort intéressant également. Donc,
oui.
On l'invite à nous l'envoyer, à le lire aussi.
Te l'enverrai.
Merci à tous et à toutes. Bonne journée à l'écoute de nos excellents programmes, cette émission, et bien sûr à retrouver sur notre site www.radiocampustour.com et en rediffusion aujourd'hui même à 17h. Et bien je vous souhaite une excellente journée. Tout ça en écoutant Amina Alaoui. Bonne journée.